13h26 minutes.
La rencontre avec M. Bergeron du circuit de Sainte-Croix, ça fait réagir. On vous a toutes lues, d'ailleurs. Si vous avez des choses à nous dire, c'est au 88-971-1021. 88-971-1021. Stéphane, le promoteur Stéphane Huot qui semble être reparti. Un gars qui est en faillite actuellement, qui semble brasser des affaires dans le secteur de Sainte-Croix. Moi, si c'est légal, il n'y a pas de problème. Si ça a des apparences d'œufs, il faudrait peut-être regarder ce qui se passe dans ce secteur-là avec la ville, bien entendu. Hey, j'ai des trucs pour vous autres. J'ai un gagnant à faire maintenant à l'occasion du Québec Tattoo Show qui va se tenir pour une deuxième année consécutive. Ça va se passer au Centre Expo Cité du 22 au 24 août prochain. On vous offre la chance de gagner un certificat cadeau chez Massothérapie MG. Après une séance de tatouage, quoi de mieux qu'un bon massage pour relaxer, récupérer tout simplement. Vous faire dorloter maintenant pour gagner votre certificat, parce que le tatou, c'est pour la vie, mais le stress, on va le faire disparaître avec un massage. Vous nous écrivez maintenant au 418-971-1021. C'est d'une valeur de 100$. Puis le mot de passe, ça va être massage. Parlant de... Oui, Pascal?
Oui, c'est un signe qu'il y a quelque chose sur la route, le connais?
Qu'est-ce qui se passe sur la route?
Incident sur l'autoroute 20 Est, là, à la hauteur de la halte routière de Saint-Nicolas. La voie de gauche était bloquée. Il y avait quelque chose d'assez important. Les services d'urgence étaient sur place. Au moins, c'est terminé, mais ça ralentit énormément le secteur. Ce qu'on a sur l'autoroute 20 Est, par contre, a occasionné un fort ralentissement. Donc, soyez prudents, mais surtout, soyez patients.
Dans le conflit israélo-palestinien, qu'on disait, non, c'est pas un conflit israélo-palestinien, c'est un conflit entre Israël et le Hamas. Là, on est rendu à 60 000 Palestiniens qui sont décédés. On compte pas les combattants du Hamas là-dedans. On parle de 60 000 civils qui n'avaient rien à voir avec le conflit qui sont malheureusement décédés dans les dernières semaines, les derniers mois. Il y a un journaliste de la Palestine, un journaliste palestinien qui aurait été tué dans les dernières heures. Et ce qu'on nous mentionne du côté d'Israël, c'est que le gars, c'est un terroriste qui était déguisé en journaliste. Et du côté de la Palestine, on dit non, c'est une victime, c'est un journaliste qui faisait bien son travail. Assez particulier. Je ne sais pas s'il va y avoir une sortie de crise bientôt. Benjamin Netanyahou semble vouloir continuer le combat jusqu'à temps qu'il ne reste plus aucun combattant du Hamas et que tous les otages qui sont encore en vie soient libérés. Moi, je ne vois pas de sortie de conflit tout de suite. J'ai l'impression qu'encore pendant des mois et des mois, on sera là-dedans. On accueille David Chabot pour parler du dossier entre l'Israël et la Palestine. Salut, mon ami!
Salut!
Content que tu sois avec nous autres pour parler de ce dossier-là. C'est épouvantable, les images qui nous parviennent. Des femmes, des enfants qui n'ont pas accès à l'eau potable, qui n'ont pas accès à de la nourriture. On nous mentionne qu'il y a des femmes et des enfants qui font des kilomètres et des kilomètres pour aller chercher de l'eau, mais c'est de l'eau non potable. Puis, sachant que c'était de l'eau non potable, ils aboivent pareil parce qu'ils n'ont rien d'autre. C'est d'une atrocité sans nom, ce qui se passe en Palestine actuellement.
C'est gênant qu'on ne fasse pas plus pour que ça arrête. Okay, parce que moi, ma position personnelle, c'est après les attaques du 7 octobre, tu avais le droit de te défendre ou en tout cas d'agir parce que là, clairement, Israël s'est fait attaquer puis tu as un droit de riposte. Okay? Fait que ça, là-dessus, la prémisse initiale, j'étais de ce côté-là. Maintenant, ça n'a plus de bon sens. Là c'est un. J'utilise le mot génocide sans aucun problème dans ce cas-ci parce que. Il y a plein d'histoires là-dedans. Là. Il y a de la propagande des deux bords. Puis là, tu sais, Israël dit oui, on fait rentrer des camions avec de l'aide humanitaire. Puis là, ils se font détourner par le Hamas, qui après va s'en servir pour prendre le contrôle de Gaza, puis etc., etc. C'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai, mais ultimement, la situation est causée à cause de l'intervention militaire. Tu sais. Donc, t'es la source du problème. Puis après ça, dans la gestion du problème, t'es-tu coupable ou pas? Je peux pas le dire, je suis pas sur le terrain.
Ouais. Pourquoi le Hamas ne rend pas les armes? Pourquoi le Hamas ne rend pas les otages? Y a-t-il encore quelque chose à négocier? Parce que visiblement, le Hamas s'est affaibli. Israël, ils réussiront pas à passer au travers d'Israël. Pourquoi ils ne rendent pas les otages?
C'est le seul levier qu'ils ont. Le
pour Hamas, avoir quoi?
Parce que dans le fond, des groupes extrémistes comme ça, là, ils sont excellents, sont très habiles pour dire « je vais en faire un petit peu pour la population pour avoir un certain niveau d'appui ». Puis là, l'appui s'effrite, là, c'est rendu 20% des Palestiniens à Gaza qui appuient le Hamas. Là. Fait que là, c'est presque plus rien. Là. Mais je vais utiliser le peu de levier que j'ai là, pour essayer de bien paraître, pour ensuite atteindre mes idéaux extrémistes. Puis dans le cas du Hamas, eux autres, ce qu'ils veulent, c'est détruire Israël littéralement. Là. Donc là, cette idéologie-là, eux autres, ils jouent le temps long. Okay? Des extrémistes comme ça, là, ils se disent, moi, je vais peut-être mourir, puis peut-être que mon fils va mourir, mais dans 52 générations, on va gagner.
Parce que le danger pour Israël, c'est de créer de futurs terroristes. Tu sais, oui. Si tu nais en Palestine, puis toutes les gens que t'aimes décèdent en raison du fait que l'autre bord, il veut faire sa loi, ben toi, tu vas vouloir venger tes ancêtres. Tu vas vouloir venger tes parents. Donc, tu sais, à un moment donné, il faut que ça cesse, ce conflit-là, parce qu'on fabrique de futurs terroristes. Là.
À 100%, à tous les jours. À tous les jours. Puis ça a fait la même chose en Irak, ça a fait la même chose en Afghanistan. On a fini par sortir de là, quand je dis « on », c'est l'Occident, là, un peu la queue entre les deux jambes. Là, en Irak, ça s'est un peu mieux passé. Là. Il y a un certain gouvernement qui a un peu de contrôle quand même sur le pays.
Mais c'est difficile, c'est des idéologies. Puis même quand tu questionnes à travers le monde ces gens-là, ils se disent ben, « pourquoi vous êtes meilleurs, vous, occidentaux? » Parce qu'ils n'ont pas la même façon de voir les droits de la personne, les droits humains. Pour eux, même, ils aident peut-être leur peuple parce qu'ils vont avec une religion qui met de l'avant et c'est ça qui est primordial. Et on s'en sortira pas.
Ben, en fait, la solution, selon moi, c'est les deux États. Là. Avoir un État palestinien, un État israélien. Puis il y a déjà eu dans le passé des avancées par rapport à ça. Jusqu'en 2007-2008, le Fatah, qui était comme l'espèce de... C'est deux groupes qui se font compétition, le Fatah et le Hamas. Le Hamas est beaucoup plus radical, le Fatah est beaucoup plus diplomatique. Donc là, le Fatah avançait.
Oui. Ouais, le Hamas est considéré comme une organisation terroriste, mais c'est un regroupement politique.
Oui, oui, ils ont gagné des élections, eux autres.
Voilà, ils ont été élus par le peuple.
Oui, absolument.
De quelle façon, ça, c'est une autre histoire, mais ils ont été élus par le peuple.
C'est ça. Donc là, tu sais, en 2007, là, le Fatah s'est fait tasser pas mal par la force, par le Hamas. Puis depuis ce temps-là, c'est de pire en pire. T'sais, c'est de plus en plus radical, parce qu'au début, c'était quelques roquettes. Puis après ça, ça a été des attentats à Israël. Puis après ça, puis après ça. Puis là, on s'est rendu jusqu'au 7 octobre, parce que là, ça a tout fait exploser. T'sais. Donc là... C'est quoi la suite des choses? Clairement, c'est de créer deux États puis de tasser le Hamas. Puis là, ben, là-dedans, c'est qui les joueurs qui peuvent avoir un certain levier? Bien évidemment, Israël est très, très, très impliqué. Là, quand Netanyahou dit « je vais prendre le contrôle de Gaza City » pour dire que la cité de Gaza, je ne sais pas c'est quoi en français, là, pour complètement faire le ménage, là, pour lui, c'est sa solution, c'est de dire « je contrôle le territoire puis je sors tout le monde puis on repart en neuf ». Ça, c'est la solution... mettons, on va dire radical d'Israël, parce que les autres aussi sont assez radicales là-dedans. Qui d'autre a de l'influence là-dedans? La Ligue arabe a vraiment de l'influence. Tous les pays arabes de la région, selon moi, c'est eux autres les plus crédibles dans ce combat-là, dans ce débat-là. Puis eux sont beaucoup plus proches du Fatah, très, très diplomatique, les deux États. Puis on essaie de séparer, si on veut, clairement entre Israël et la Palestine pour arrêter de s'empiéter un par-dessus l'autre. Eux, en ce moment, ils parlent, là, mais ils sont pas assez, selon moi, impliqués dans cette histoire-là. Parce qu'ils devraient même avoir une force de maintien de la paix de la Ligue arabe, qui n'existe pas encore, qui devrait exister pour exactement ce type de situation-là. Après ça, ben, évidemment, il y a l'ONU là, qui est un peu édentée tout le temps et qui ne sert pas à grand-chose à mes yeux.
Et qui n'ont plus de pouvoir. Mais c'est là que c'est triste parce que tu considères à quel point il y a eu une décrépitude, en fait, de ce que représentait l'ONU puis la force.
Oui, puis les casques bleus.
Ouais.
Les casques bleus qui ont été créés par les Canadiens, là, Diefenbaker dans le temps. C'était une fierté, puis maintenant, on s'en sert plus. Mais pourquoi? Parce que le Conseil de sécurité contrôle tout à l'ONU. Puis là-dedans, ben, évidemment, les États-Unis sont très influents. Puis les États-Unis sont collés sur Netanyahu en ce moment. Donc là, ça n'arrivera pas que l'ONU va envoyer des casques bleus. Donc là, il y a ça, puis finalement, la seule solution qui reste... Ou il y a peut-être l'Union européenne aussi qui pourrait avoir un certain levier là-dedans, comme il essaie d'en avoir en Ukraine.
Pendant ce temps-là, y a-t-il d'autres groupuscules, mettons, géopolitiques qui se forment? Parce que ce qu'on entend, c'est que oui, puis même très, très fort, au Moyen-Orient, des alliances, rien de très concret, mais il y a peut-être le nouvel ONU sans avoir la même mission qui est en train de voir le jour ailleurs, là.
Bien, si tu parles d'une organisation plus diplomatique, la Ligue arabe commence à prendre beaucoup plus de place qu'avant. Mais là, si on parle d'organisation de terroristes, il y en a un nouveau à chaque semaine.
Diplomatique.
Oui, diplomatique. La Ligue arabe devrait prendre beaucoup plus de place. Puis les accords d'Abraham que Trump a fait signer, là, qui à sa défense, là, il fait bien des affaires tout croche comme en ce moment à Washington, mais tu sais, il a quand même avancé la cause de la normalisation, si on veut, de la relation entre Israël et d'autres pays arabes avec les accords d'Abraham qu'on s'était parlé il y a une couple de semaines. Donc là... Il y a quelque chose là-dedans, mais ça, c'est une solution à long terme. Mais à court terme, il y a du monde qui meurt là.
Mais pourquoi Netanyahou veut pas qu'on mette Gaza puis la Palestine, en fait, qu'on ne reconnaisse pas la Palestine, que la Palestine devienne un État? Pourquoi il veut pas? C'est une guerre de religion, tout simplement?
Bien, religion-ish, là, c'est plus idéologique. Parce que
Poutine voulait un État coussin là, entre lui et l'Occident. Mm-hmm. Puis c'est comme ça que justifiait son invasion de l'Ukraine. Là. Il voulait pas que les autres pays soient près du sien parce qu'il considère l'Occident comme l'ennemi à abattre. Mais dans le cas de Netanyahou, c'est vraiment le fait qu'il veut se protéger. Puis qu'est-ce que ça lui enlève, lui?
Bien, sa vision Je ne suis pas dans ses culottes, là, mais ce qui témoigne tout le temps, c'est de dire tant qu'il y aura la bande de Gaza puis la Cisjordanie, puis un État informel palestinien, ben, Israël va être en danger. C'est ça sa vision. Là. C'est-à-dire que dès qu'il y a une frontière limitrophe avec un peuple palestinien et évidemment la Hamas, ben, Israël va être en danger. Donc là, en ce moment, ce qu'il veut faire, clairement, c'est de dire on va complètement rayer de la carte Gaza. Puis la bande de la Cisjordanie, on en parle un petit peu moins, là, ça c'est à l'est. Là. C'est un peu plus stable à ce moment-là, à cet endroit-là, mais c'est quand même assez critique. Là. Mais vraiment, la bande de Gaza pour Israël et pour Netanyahou. Quand je dis Israël, c'est pas vrai parce que c'est beaucoup moins populaire qu'avant. Là. Il y a des manifestations dans les rues à Tel Aviv à tous les jours maintenant. Mm-hmm. Des dizaines de milliers de personnes qui disent là, il va falloir que ça arrête à un moment donné.
Ouais. Mais ça me démontre que Israël, c'est sain. Là. Il y a une démocratie, oui. Puis tu sais, bon, on peut penser ce qu'on veut de Netanyahou, mais à l'intérieur même d'Israël, il y a des gens qui peuvent manifester dans les rues puis pas se faire tirer. Là.
C'est ça. Dans plusieurs pays dans l'histoire de l'humanité, il y a eu ça, là, des espèces de... On appelle ça des hardliners, là, des gens qui sont très, très durs, qui ont des lignes très, très orthodoxes. Là, dans l'URSS, il y avait ça, là, des communistes hardcore qui cherchaient la crise pour justifier la ligne dure. En Corée du Nord, en Corée du Sud aussi, il y a ça beaucoup. Puis il y a plein de pays comme ça, parce qu'il y a des zones de conflit en Inde aussi, il y a ça. Donc, ces gens-là, ils attendent le conflit pour prendre le pouvoir. Puis c'est ça qui s'est passé avec Israël. Parce que Netanyahou était au pouvoir avant le 7 octobre, mais il a quand même beaucoup bénéficié de cette crise-là, de cette attaque-là, pour mettre de l'avant sa vision de prendre le contrôle puis de faire le ménage. Donc là, lui, tu sais, on dit souvent ne jamais gaspiller une bonne crise. Là. Ça n'était une solide, là, puis je peux dire qu'il ne l'a pas gaspillé là, à ses yeux.
Qu'est-ce qui fait en sorte qu'un Palestinien peut pas quitter la Palestine?
Bien, les frontières sont contrôlées en ce moment. Là.
OK. Mais pourquoi on les accueille pas, les Palestiniens?
Ben, qui?
Ben, les autres pays autour.
Ben, OK, mais là, il faut qu'eux autres y acceptent. Tu comprends? Mais là, ça dépend comment ça se fait. Parce que la Ligue arabe commence à ouvrir un peu le jeu par rapport à ça. Mais imagine ça, là. T'as créé une crise humanitaire sans nom.
Ouais.
Puis tu dis, j'ouvre les frontières, par exemple, de l'Égypte ou de la Jordanie qui sont limitrophes. Puis on dit, du jour au lendemain, là, bang, là, t'as des centaines de milliers de réfugiés qui ont rien dans les mains, qui rentrent chez nous. Puis c'est à toi de gérer ça. Nous autres, on s'en occupe plus.
En panique, avec des besoins extrêmes, des maladies, de la famine, des enjeux politiques.
Ouais, c'est rendu tellement toxique, ce sujet-là, qu'ils veulent même plus ouvrir la porte pour faire place aux réfugiés.
Je connais sa réponse, là. Ouais. Je te pose la question.
C'était une question
platonique. Est-ce qu'on juge que les Palestiniens, en tant que tels, parce qu'ils sont gangrénés par la Hamas, peuvent être une menace pour leur propre pays? C'est la raison pour laquelle ils y rentrent pas? T'sais, on parle de maladies, bon, tout ça, mais concrètement, ça peut-tu être une menace? Parce que, tu sais, on regarde ce qui se passe ailleurs dans le monde. Mettons, à Montréal, ce qui s'est passé là, tu sais, un musulman qui attaque un juif pendant que le juif est avec son enfant, tu sais, tabarouette. Tu sais, vous êtes rendu en Occident, là, ici, là. Toutes les religions sont acceptées. On essaye de vivre en paix. Pouvez-vous nous crisser à paix avec vos religions? Là, ça se tape même ici, tu sais. C'est-tu la raison pour laquelle les autres pays disent non, nous autres, des guerres de religion, ça nous intéresse pas. Vous restez chez vous parce que vous êtes une problématique. C'est cruel en même temps, c'est des femmes, des enfants. Il me semble que si ces gens-là étaient collés sur le Canada, on aurait probablement une porte ouverte sur eux.
Bien, l'affaire, c'est que dans cette situation-là, si tu les accueilles, c'est que tu crées des camps de réfugiés. Là, clairement, tu n'as pas le choix de faire autrement que ça. Puis il n'y a rien de plus permanent qu'une solution temporaire. Fait que là, tu vas les faire rentrer, par exemple, en Égypte. Tu vas créer un grand camp. Mais là, Gaza, c'est pas réglé l'autre bord. Là. Fait qu'ils reviendront pas en Palestine demain matin. Là. Fait que là, tu les as chez vous pour toujours. Là. Puis là, ben, l'Égypte, la Jordanie, le Liban, à la limite, aurait pu avoir un rôle à jouer, même s'ils sont avec le Hezbollah. Ça leur tente pas de gérer ça à long terme. Là. Les autres sont comme, c'est pas ma crise à moi. Là. Oui, je suis arabe, là, on partage la même religion, mais en tout cas, musulman, là, je veux pas faire des amalgames entre arabes et musulmans, mais tout ça pour dire qu'on partage les mêmes idéaux, si tu veux, mais je les veux pas chez nous pour toujours. Moi, j'ai déjà ma population. Ah, ta montre est d'accord. Donc là, c'est ça, ils ont déjà leurs enjeux sociaux à gérer chez eux. Là. Fait qu'ils veulent pas non plus ouvrir cette porte-là, puis ça devienne une autoroute à réfugiés. Puis là, je dis ça de façon insensible, alors que c'est des vrais humains qui souffrent. Là.
Non, faut être rationnel.
Oui, parfois, quand t'es pas organisé, là. Ça vient pire. Fait que là, c'est ça qu'ils veulent pas aussi. Côté alliance économique, c'est particulier aussi, mais c'est ce qui est énormément déploré aussi. Mm. Du côté de l'Europe, du Moyen-Orient, pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable d'avoir justement l'enjeu humanitaire d'abord et avant tout en priorité, puis on revient aux valeurs occidentales. Okay. Fait que c'est comme une loupe qui ne finit plus.
Puis en quoi le Canada et les États-Unis doivent se mêler de ce conflit-là?
Ben, c'est parce que ça...
Tu sais, qu'on accueille les réfugiés, je suis pour ça, là, tu sais, surtout les femmes et les enfants. Les gars, ben, si vous êtes contre Israël, ben, restez dans votre pays, puis faites la guerre avec Israël, faites vos affaires. Mais les femmes et les enfants qui n'ont rien à voir avec le conflit, on peut les accueillir. Mais pourquoi c'est toujours à nous autres, l'Occident, de régler les conflits ailleurs? Pourquoi Trump a une si grande importance dans le conflit Israël contre le Hamas et la Palestine?
Okay. Ben là, il y a deux questions là-dedans. La première, mettons que tu vois quelqu'un dans la rue qui se fait battre, là, tu vas-tu intervenir?
Ben oui.
Bon, mais pourquoi tu ferais pas la même affaire d'un point de vue géopolitique? Parce que là, tu as un peuple qui se fait littéralement battre. Là. Puis il y a comme un concept de base qui s'appelle la responsabilité de protéger.
Ouais.
Que quand la communauté internationale, c'est un concept assez flou, là, voit une situation aussi critique qu'en Palestine, ils ont la responsabilité de protéger la vie humaine, donc d'intervenir. Ça, c'est le principe de base. Je crois même que c'est enchâssé dans plusieurs lois internationales, puis la Charte de l'ONU, puis etc. Donc ça, c'est une des choses. À cette heure, la question de pourquoi Donald Trump puis tout ça, les États-Unis ont immensément de levier sur Israël parce qu'ils envoient de l'argent et des armes à tous les jours. Okay? Fait que là, tu sais, d'un côté, Donald Trump hésitait, ou en tout cas, il soufflait le chaud et le froid pour aider l'Ukraine dans sa guerre, mais ils font exactement la même chose en Israël, où on en parle beaucoup moins, là. Donc, tu sais, des F-35, puis des missiles, puis du financement pour acheter des armes, c'est quotidien, là, l'argent qui transfère en Israël. Donc, autant ça peut aider Israël dans le conflit, autant si ça vire de bord, là, whoop, là tu perds tous tes appuis si tu règles pas le conflit, si t'arrêtes pas d'être violent, ben là, les États-Unis pourraient dire, moi, je ferme le robinet, puis t'arrêtes ça, là. Mais ils le font pas en ce moment. Il y a une proximité incroyable entre Trump et Netanyahou,
ouais,
qui est dure à expliquer, tu sais.
Puis Trump, y a-tu un avantage à faire ça, à tenter de régler la paix dans le monde?
Ben, lui, il veut.
Parce que j'ai l'impression, puis là, c'est vraiment un préjugé, là, j'ai l'impression que pour l'Américain moderne, là, il se crisse éperdument de ce qui se passe là-bas. Là. Tu sais, nous autres, on en jase parce que peut-être qu'on est un peu plus bouillant, on est un peu plus chaud, puis on regarde ça, puis on trouve que c'est des atrocités, mais j'ai l'impression que quelqu'un qui habite au centre-ville de New York, là, il en a absolument rien à foutre de ce qui peut se passer dans les guerres de religion et tout ça. Pourquoi Trump serait le grand responsable de tout ça? Ben, tu nous l'as expliqué, tu sais. Mais pour l'Américain, tu sais, il va-tu cesser de voter pour les Républicains parce que Trump s'immisce pas dans le conflit? Je pense pas.
Ben, tu sais, mettons, là, l'appui populaire aux États-Unis par rapport à la guerre en Ukraine est très bas. Parce que les gens se disent, c'est pas notre conflit.
C'est pas notre guerre. C'est ce que je lis. Là. Je lis souvent. Ce n'est pas notre guerre.
Exact. Tu vois ça partout sur les réseaux sociaux puis dans les commentateurs. Puis tout ça. En Israël, c'est un peu différent parce que le lobby israélien est très fort aux États-Unis pour plein de raisons.
Lobby juif.
Oui, bien. Oui, effectivement. Parce qu'il y a des liens d'affaires, parce qu'il y a une diaspora très forte aux États-Unis, parce que c'est des gens qui ont beaucoup d'influence financière. Donc là, c'est sûr que le contexte est différent. Ce lobby-là a beaucoup plus d'intérêt à ce qu'Israël gagne le conflit ou en tout cas soit avantagé là-dedans. Mais Trump s'est impliqué dans d'autres affaires qui ont peu retenu l'attention. Là. Le Cambodge puis le Vietnam qui se tapaient sa gueule là, il y a une couple de semaines, là. On n'en a pas beaucoup parlé, mais ça aurait pu virer lettre parce que la Thaïlande avait 100 fois plus de capacité que le Cambodge.
Exact.
Puis finalement, oups, ça s'est arrêté. Ouais. Comment ça s'est passé? Je le sais pas. C'est quoi déjà l'autre conflit que Trump a intervenu pour arrêter? Je me souviens plus. Ben, l'Inde puis le Pakistan s'est impliqué beaucoup là-dessus. Est-ce que c'est lui qui l'a réglé ou pas? Je sais pas, mais il a affirmé qu'il voulait que ça arrête. Puis, tu sais, j'allais dire la rumeur, ou en tout cas, c'est assez connu là, en ce moment, c'est que Trump a vraiment l'ambition d'avoir un prix Nobel de la paix, parce que c'est un des titres les plus prestigieux après avoir la présidence, là, finalement. Parce que là, tu te fais reconnaître comme grand bâtisseur de l'humanité, si tu veux.
Mm.
Puis là, ben, y a tout le temps l'histoire que Barack Obama a eu le sien à cause des accords du Caire en Égypte, que finalement, c'était-tu vraiment mérité, je le sais pas, là, mais...
Mais c'est sûr et certain que du jour au lendemain, qu'il y a le prix Nobel de la paix, c'est la fin de l'institution.
Ben oui. Mais d'un point de vue paix, là, ironiquement, à l'interne, chez eux, là, avec la garde nationale à Washington puis à LA, c'est so-so, mais à l'international, je suis obligé de te dire qu'il agit quand même pour la paix,
ouais,
tu sais, parce qu'il essaye, en tout cas, c'est ce qu'il affirme, il essaye quand même de régler des conflits, là, avec l'Ukraine puis la Russie, puis là, ça, c'est un peu bizarre comment que ça se passe en ce moment, les négociations. On exclut Zelensky des négociations, on fait ça avec l'Union européenne, mais pas vraiment. Puis là, ben, c'est pas mal face à face Trump avec Poutine que ça va se régler. Mais là, ils vont négocier des choses que l'Ukraine n'acceptera pas. Puis là, ben, Trump va servir de bord en disant « Mais là, l'Ukraine veut pas vraiment la paix parce que je t'ai trouvé un deal puis tu l'as pas accepté. » C'est bizarre comment ça se passe en ce moment. Mais ça reste qu'il affirme toujours quand même d'essayer de faire la paix en Ukraine parce que c'est la guerre la plus connue, la plus visible en ce moment.
Ouais.
Puis avec Israël, ben il y a un peu moins cette volonté-là, bien qu'il y a déjà dit certaines fois, là, il va falloir que ça se calme.
C'est juste hallucinant que ça se ramène chez nous. Là. Tu sais, je regardais des articles qui se sont écrits sur la communauté LGBTQ+2. Là. Il y avait le défilé en fin de semaine à Montréal. Puis là, il y a des groupes sionistes. Il y a des gens qui sont pro-Palestine qui se chicanent. Il y a une dame qui était pro-Palestine, qui a tiré de la pisse à des gens qui étaient pro-Israël. Je veux dire,
puis encore ce matin,
c'est rendu chez nous.
Il y a des manifestants pro-palestiniens qui sont entrés dans les locaux de la presse puis qui ont fait un genre de manifestation à 9h40. Ils étaient là, une vingtaine d'individus qui appuient la cause palestinienne qui étaient entrés là, presque par effraction, là, si je veux le dire comme ça, dans les locaux de la presse. Se sont massés dans l'immeuble et justement, ils ne bougeaient plus. Il a fallu appeler la police, homme de 20 ans, femme de 29 ans, qui ont été arrêtés respectivement pour agression armée envers policiers et entraves.
Mais tu vis ta religion chez vous, puis t'es chez nous, j'ai aucun problème. Tu vis ta religion chez vous, mais que tu amènes ça dans les rues puis ça se transforme en violence, puis je sais pas si tu as vu les images, Pascal, de ce musulman-là qui tapait sur un juif qui était à terre avec sa petite fille.
C'est dégueulasse.
Mais c'est le genre de choses qui me rend complètement débile. Mais votre religion va vous amener à faire quoi, tu sais?
Mais ça va dans les deux sens. Là. Je veux dire, il doit y avoir des exemples des deux côtés, mais c'est un conflit qui est tellement émotif que ça vient comme ça. À mon sens, la ligne, c'est tu as le droit d'affirmer ce que tu veux, mais tu dois pas rien faire d'illégal là, parce que la liberté d'expression, ça s'arrête où la loi commence. T'sais. Donc là, dans ce cas-ci, si tu as des manifestations sur la rue Sainte-Catherine, mettons, là, au même titre que les étudiants ont fait, ça me dérange pas tant.
Non, mais ça fait partie de la démocratie. Là. Tu peux manifester, mais à partir du moment où ton comportement de manifestant devient criminel, si tu n'as pas encore été reçu canadien, tu reprends tes clics, tes claques, tu vas régler tes trucs chez vous, puis tu reviendras lorsque tu devras vivre en paix. Là.
Ouais.
Moi, j'ai aucune pitié pour ça.
Oui, ça, c'est une question quand même épineuse, tu sais. T'es ici comme résident permanent, tu fais des gestes criminels, est-ce qu'on on te renvoie d'où tu viens?
Aucune pitié.
Ben, la question n'a jamais
été dite.
Ici,
on veut vivre en paix.
T'sais.
C'est la dictature. Ici, on veut vivre en paix. Tu veux pas vivre en paix, tu dégages, tout simplement. Tu as le droit de manifester pour la cause, tant aussi longtemps que ça a du bon sens, bien entendu. Mais si ça fonctionne pas, puis tu commets des gestes criminels alors que tu n'es pas encore citoyen canadien, dans ma dictature, moi, sur mon île Ruau, là, dans le milieu du fleuve Saint-Laurent, là, tu te retournes à Québec, tu t'en vas à Lévis. Là.
J'ai assez hâte d'être ton vice-président, d'ailleurs.
Ouais,
tu t'en vas à Lévis.
On va avoir une super de belle île.
Ça va être
un resort, puis en plus, avec cette température-là, Pascal va venir prendre un verre à chaque soir.
Ça va être parfait, ça. Moi, tant qu'il y a un terrain de golf sur ton île, là, ça va marcher.
Alors, mes tâches, ce sera que boire?
C'est pas mal tout le temps juste tes tâches quand t'es avec nous autres. Fais juste boire.
C'est le fun que mes compétences soient sous-évaluées comme ça, non, Yannick, mais ça va être plaisant.
On va trouver un restaurant Michelin. Tu vas nous patenter quelque chose.
Exactement. Ça a été un plaisir, David Chabot. On se reparle la semaine prochaine.
Merci, mamie.
Merci à toi.
Merci.
13h48, Pascal. Il reste encore quelques minutes. On va regarder ce qui se passe du côté de l'actualité, mis à part ce qui s'est passé dans les bureaux de la presse. Y a-t-il d'autres choses qui retiennent ton attention? Peut-être l'élection hors Tabasco. Je pense que ça jase pas mal.
Là. Oui, on est là-dedans. Il faut savoir que le vote par anticipation a été le fun à 26 %. C'est énorme, mais c'est surtout...
T'as trouvé ça le fun?
Ah, moi, j'aime ça là, quand le monde va voter. Là, je vous félicite. Et ça joue beaucoup entre Éric Duhaime, chef du Parti conservateur, qui se représente et qui présente en fait son parti dans Arthabasca, et Alex Boissonneau, qui est candidat du PQ, qui était aussi anciennement dans les médias. C'est vraiment une lutte serrée, 37 % pour les deux. Là, je l'ai répété deux fois, c'était pas un bug. Là. C'était vraiment les prévisions en fait pour chacun des candidats. Ça joue très, très, très serré. Et ce soir, ce sera chose faite. On saura qui va entrer à l'Assemblée nationale.
Vos prédictions, les amis, est-ce qu'Éric Duhaime va rentrer à l'Assemblée nationale? Est-ce qu'Alex Boissonneau du Parti québécois va rentrer à l'Assemblée nationale? 418-971-1021, 418-971-1021 par texto. Écrivez-moi rapidement parce que l'émission va finir dans les prochaines minutes. Je vais vous donner le résultat.
Plus près de chez nous, Lac-Beauport, grosse problématique en ce moment. Brie d'aqueduc majeur, l'eau potable est coupée. Alors, sachez-le, si vous êtes au bureau puis vous résidez à Lac-Beauport, situation qui pourrait durer au moins toute la journée. C'est ce qu'on a fait savoir par la municipalité dans un communiqué qui a été transmis aux médias. Gros brigade d'aqueduc à Lac-Beauport, il n'y a pas d'eau. Une histoire qu'on avait suivie, même si c'était à Longueuil, un drame en juin 2022, celui d'une serveuse dans un bar, le Vegas, mais à Longueuil. Un coup de poing fatal qui avait été donné à un homme de 70 ans. Une femme qui finissait son quart de travail, qui était dans le stationnement. Il y avait un homme de 70 ans qui titubait, il avait bu. Il était vraiment pas en état pour être droit.
La dame était dans sa voiture.
Il se tenait sur les voitures. Mmh. Puis oui, cette dame-là était dans la voiture. Elle a vu l'homme arriver. Il se tenait sur sa voiture, entre autres. Elle est sortie, puis elle a asséné un coup de poing au visage. Il ne voulait pas le tuer, clairement. Il est tombé au sol, mais le fait que sa tête ait frappé le sol violemment, ça a été fatal. Et là, la famille du décédé juge la peine trop clémente parce que c'est une peine dans la collectivité qui a été confirmée pour la serveuse. Donc, elle va pouvoir être à la maison pour purger sa peine de détention plutôt que derrière les barreaux. Et c'est ce qui fait réagir. L'homme, c'est Pierre Landry. C'est lui qui est décédé au bar dans le stationnement du Vegas. Et cette jeune femme-là, bon, ça fait critique assurément, là. Ce qu'on dit, c'est on fait des comparatifs. Si ça avait été un cas inversé, une femme de 70 ans qui avait reçu coup de poing au visage par un homme peut-être de l'âge de l'accusé, finalement, la condamnée, est-ce que ce serait le même verdict? Mais bon, il y a un jury qui a condamné la serveuse d'homicide involontaire.
Le bar Le Vegas, c'est le bar qui était à Montréal, à Longueuil.
À Longueuil. Ouais,
c'est pas celui-là à Québec.
Non, je l'ai dit, j'ai dit deux à trois fois.
Ah non, parce que quand tu as dit Le Vegas, je me sens qu'il y a un bar à Québec.
Il y en a un aussi, oui, mais j'ai dit deux, trois fois, effectivement. C'est pas chez nous, mais ça fait réagir.
Ouais.
Parce que c'est un genre de nouvelle qui, quand même, attire l'attention. Et on avait l'impression que c'était mal jugé pour la famille. Là, on est vraiment en train de déplorer tout ce qui se passe pour cette cause-là. Je veux aussi parler de Maxime Bernier, le chef du Parti populaire du Canada, qui annonce qu'il va se ranger dans le camp du oui. Quel camp? Le camp du oui. S'il y a un référendum prochain sur l'indépendance, alors soit au Québec ou en Alberta, son but, il dit sauver le Canada. Donc, c'est une infolettre qui a été envoyée. Il en envoie. M. Bernier, il est très efficace sur le courriel depuis les nombreuses années où on le connaît. Et là, il a envoyé ça aux partisans aujourd'hui. Et lui, il dit qu'il appelle le fédéralisme impérial. C'est caractérisé par, bien sûr, des incessantes compétences provinciales comme la santé, l'éducation, la garderie ou l'environnement pour M. Bernier. Il faut savoir que c'est un ancien ministre du gouvernement de Stephen Harper. Il a rappelé avoir voté oui au référendum de 1995, pas parce qu'il voulait briser le Canada, mais parce qu'il croit que c'est la seule façon d'arrêter le mouvement incessant de centralisation du pouvoir à Ottawa. Il s'est prononcé là-dessus, lui. Puis c'est un enjeu dont on parle beaucoup, Yannick, je veux dire, le référendum, plus ou moins, plus PSPP qui l'a ramené dans ses revendications politiques, mais la souveraineté, ça fait 2-3 jours qu'on roule sur des sondages puis que ça est en montée chez les jeunes.
Oui, effectivement. Mais ça a toujours été ça, tu sais, des communistes à 20 ans, là.
Voilà, t'es pas automatiquement communiste si t'es pour la séparation du Québec non, du mais, Canada, là. Drôle de raccourci.
Ben non, mais tu sais, c'est normal d'être communiste à 20 ans. Quand tu commences à payer des taxes, des impôts à 40, là, tu disais, t'es un peu là, on va regarder ce qui se passe côté économique. Moi, je suis de ce côté-là. Est-ce que je suis pour la souveraineté? Pas encore. Est-ce que je suis ouvert à ce qu'un jour on réussisse à me convaincre en disant, sais-tu quoi, voici la façon dont on va procéder, voici comment ça va fonctionner, voici comment on va sauver de l'argent, voici comment le panier de services va bien servir les gens, parce qu'on a un gros panier de services au Québec, là, quoi que certains puissent en penser. Regardez juste les immigrants, quand ils regardent les services au Canada, dans toutes les provinces, c'est pas pour rien qu'ils s'en viennent vraiment beaucoup vers le Québec, parce qu'il y a beaucoup de services pour les moins bien nantis de notre société. Bien, si on peut travailler sur ce panier de services-là, puis qu'il soit le plus efficace possible, puis qu'il nous coûte le moins cher possible, peut-être qu'un jour, je serai porté à dire oui à la souveraineté. Mais actuellement, il n'y a pas un gars de centre-droit ou pas une fille de centre-droite qui est capable de me dire demain matin que le Québec serait viable.
As-tu des réponses pour tes prédictions dans Tabasca, Yannick? Est-ce que tu voulais vraiment faire ça avant la fin de l'émission?
Moi, je suis vraiment embêté, Pascal. Okay. Là. J'ai vraiment l'impression que ça va être une lutte serrée. J'ai l'impression que ça va être le PQ qui va passer. J'ai énormément d'auditeurs qui m'écrivent actuellement pour me dire que ça va être Éric Duhaime qui va passer. Je te dirais, en majorité, j'ai à côté par texto.
Tiens.
Mais je ne sais pas. Je pense que ça ferait du bien à 500 000 personnes au Québec de voir quelqu'un qui les représente arriver à l'Assemblée nationale avec des idées qui sont complètement différentes de celles des autres équipes qui sont à l'Assemblée nationale.
Il va vouloir créer un choc, ça c'est sûr. Il va le faire peut-être à la Catherine Dorion, mais avec des idées politiques complètement différentes. Mais j'ai l'impression qu'il va vouloir le faire comme ça.
Mais juste avec le regard de l'extérieur, Victoriaville, à l'intérieur de Victoriaville, c'est du Alex Boissonneau à côté. Puis aux alentours de Victoriaville, ça semble être le Parti conservateur du Québec. L'important, les amis, si vous êtes dans ce secteur-là, personne ne va vous dire ici à la station pour qui voter. Puis c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de travailler ici. Je ne prends pas les auditeurs pour des idiots. Je pense que tout le monde est capable de faire son choix. Tant aussi longtemps que c'est un choix qui est éclairé, je vais toujours respecter ce choix-là. Puis que la démocratie, Pascal, s'opère. Ben oui. Puis demain matin, ben... on sera content ou on sera pas content, puis on vous en jasera. Ouais, c'est ça. C'est vraiment Dudu actuellement par texto qui mènerait la danse, là. Donc, c'est un sondage très scientifique, Pascal CV.
Ouais, c'est Marceau CV.
Je te laisse là-dessus. Je vous retrouve ce soir, 18h, avec Maître Marc Bellemare. Sinon, l'excellent Denis Gravel, Véronique Bergeron et Audrey seront là dans les prochaines minutes. Puis toi, ben, je te souhaite de passer une belle fin de journée. On t'écoute demain dans l'heure CV.
Oui.
Bon.
Dès 10h.
Salut.
Salut. Bye-bye. Marceau.